Guillaume Franzva, bonjour, bienvenue à la station Aussaune chez Mola pour évoquer votre dernier ouvrage, Le rêve brisé de Charles Quint. Vous êtes conservateur du patrimoine, diplômé de l'École nationale des chartes et vous avez déjà publié en 2020, un ouvrage intitulé 1520 au seuil d'un monde nouveau. Vous vous intéressez ici au rêve brisé de Charles Quint, 1525-1545, un empire universel. Alors, permettez-moi d'abord de vous poser la question. Ce rêve de Charles Quint, ce rêve d'empire, quel est-il concrètement ?
Alors, c'est justement un des aspects que j'ai essayé de déterminer dans mon livre, parce que, en général, on a un peu tendance à voir cela de manière simpliste, en présupposant que Charles Quint souhaite asservir l'ensemble de l'Europe en passant au passage sur le corps de son rival français pour devenir le souverain le plus puissant d'Europe. Et en fait, c'est un peu plus subtil que ça parce que toute sa vie, Charles Quint se défend justement de ne pas vouloir en fait être justement le tyran qui asservit toutes les nations autour de son empire. Son projet, en fait, c'est de prendre la présidence de l'ensemble des nations européennes, dans une perspective qui, en fait, peut rappeler un petit peu le multilatéralisme qu'on connaît aujourd'hui avec l'Union européenne, car il veut, en fait, fédérer tous les différents souverains, princes et cités de l'Europe autour du trône qu'il incarne, afin non pas de restaurer un empire qui aurait une domination absolue sur l'ensemble de l'Europe, mais d'être, de fait, celui qui met l'Europe en musique. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux vous dire.
Alors, ce rêve d'empire, en fait, comme vous l'expliquez très bien dans le premier chapitre de votre première partie, c'est aussi l'héritage d'une tradition impériale dont il est en quelque sorte le dépositaire. Dès lors, il y a à la fois le souhait, le rêve, mais n'est-ce pas aussi quelque part une forme de mission, finalement, comme le roi de France et le successeur à la couronne de France, lui, Charles de Gaulle, en 1519, finalement, il devient, sans que ce soit même un rêve, est-ce que c'est pas une contrainte et une sorte de mission, lui qui a toujours mis ses pas dans une logique ecclésiastique et presque évangélique, hein, dans la suite du Christ, est-ce qu'il ne se voit pas finalement comme le porteur de cette mission? Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette mission, de cet héritage, de cette tradition impériale à laquelle finalement en France, qu'on ne connaît pas très bien?
Alors, effectivement, oui, Charles Quint, j'en parle dans le livre, il est, on va dire, en quelque sorte, la fontaine dans laquelle se déverse l'ensemble des différentes traditions impériales qui ont parcouru l'Europe de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On trouve un héritage très net de l'époque romaine via les relectures qu'on a pu en faire au Moyen-Âge au plan de la réinterprétation géopolitique, par exemple la donation de Constantin qui donnait fictivement Rome et les terres alentours au pape. Il y a cette part de relecture paléohumaniste qui est assumée par Charles Quint. Il y a aussi un héritage carolingien qui, bien sûr, se matérialise dans l'héritage de Charlemagne. Et on a un excellent tableau de Dürer à la même époque qui représente Charles Quint avec les attributs impériaux contemporains utilisés par Charles Quint pour son couronnement et ses différentes apparitions publiques, ce qui montre bien qu'il y a vraiment une filiation qui est non seulement revendiquée par les élites et par l'empereur, mais aussi parfaitement acceptée par la population. Et il y a également d'autres courants qui, eux, sont peut-être moins évidents pour nous, qui, d'une part, proviennent de l'Orient, avec un héritage byzantin qui est mal connu aujourd'hui, mais qui est bien réel, et également un héritage dynastique multiple, parce que Charles Quint descend des ducs de Bourgogne, qui avaient très clairement l'envie d'accéder à un rang de souverain entier, et qui faisaient de leur arbre généalogique le réceptacle de divers héros qui sont parfaitement dans la lignée des représentations romaines. On a par exemple Hercule, donc un héros auquel les empereurs romains s'assimilaient beaucoup, qui est désigné donc parmi les modèles des ducs de Bourgogne et que donc Charles Quint reprend à son compte, notamment dans sa devise donc qui est les colonnes d'Hercule. Donc cette emblématique, elle montre déjà un premier héritage direct de sa famille et il se cumule à d'autres héritages familiaux puisque Charles Quint a la chance d'avoir reçu les biens et les titres de trois dynasties différentes, donc les ducs de Bourgogne, les Habsbourg pour l'Autriche et le Saint-Empire, et enfin les rois catholiques d'Aragon et de Castille. Donc ce triple héritage se cumule, et donc on a, outre la Bourgogne, l'Autriche, qui détient le trône impérial depuis le milieu du XVe siècle et qui a beaucoup relancé toute l'idéologie impériale qui avait cours en Allemagne pour justement faire de l'Autriche la dynastie qui dominait naturellement le Saint-Empire. On a notamment Frédéric III, donc son arrière-grand-père, qui a produit la devise « Aeu », qui se traduit à la fois en allemand et en latin, et qui signifie en français donc que l'Autriche est appelée à commander au monde entier. Donc une devise qui est extrêmement importante dans l'imaginaire autrichien de l'époque, et qui montre que ce deuxième apport dynastique est extrêmement important. Et le troisième donc, volet dynastique que Charles Quint connaît pour le coup directement, donc, c'est l'Espagne, puisque l'Espagne à cette époque-là est l'un des royaumes vraiment en pleine croissance. Hein. Ils ont fait main basse sur les colonies américaines, ils ont repoussé les derniers musulmans qui vivaient encore au sud de l'Espagne à la fin du XVe siècle, et ils sont vraiment le fer de lance de la guerre sainte à la fin du Moyen-Âge sur le pourtour de la Méditerranée. Et ce dernier héritage que Charles Quint découvre lorsqu'il va en Espagne en 1519 pour la première fois de mémoire, eh bien, il s'aperçoit qu'il a face à lui une idéologie qui est tout aussi structurée que celle des ducs de Bourgogne et de l'Autriche, et qui vise en fait à faire de l'Espagne un nouvel empire, un empire qui se serait déplacé de son centre historique vers l'Espagne, et qui donc reprend à son compte les différentes missions, donc celle de l'évangélisation de l'humanité entière et de la lutte contre l'infidèle. Et donc tous ces différents héritages sont extrêmement complexes et nourrissent donc la réflexion de Charles Quint et le sentiment d'avoir une mission pour faire coexister et aboutir ces différents héritages.
Alors cette mission, effectivement, vous l'expliquez très bien, elle est finalement l'héritage de ces héritages patrimoniaux. Hein. Bien sûr, il y a les territoires autrichiens, bien sûr, il y a le Saint-Empire, il y a le duché de Bourgogne auquel il fut si attaché, et il y a bien sûr les couronnes de Castille et d'Aragon obtenues après le mariage de ses grands-parents. Dans cette tradition impériale, il y a aussi finalement les fantasmes, les images de traditions impériales héritées. Vous avez cité Hercule, il y a plus globalement effectivement celle de l'Empire romain. Et puis il y a un autre personnage dont beaucoup aiment s'apparenter à être le successeur, c'est Charlemagne finalement. C'est un empereur finalement qui a compté dans l'Occident médiéval. Et Charles Quint, quelque part, apparaît finalement, c'est le premier continuateur de Charlemagne. Alors dans quelle mesure finalement cette idéologie impériale que vous citez, cette mission, ce discours, cette rhétorique qui est nourrie lui-même dans sa personne par ses différents héritages, doit-il à cette personne finalement qui, au cours du Moyen-Âge, avait quand même réussi cette unité du monde chrétien hein, en alliant l'empereur et Rome, dans quelle mesure Charles Quint il va être obnubilé, habité par cette ambition impériale qui était le propre de Charlemagne?
Effectivement, comme vous le rappelez, Charlemagne, donc c'est un vrai modèle pour Charles Quint, d'une part pour son héritage symbolique, la couronne impériale et la couronne de France reprennent toutes deux des objets qui sont censés être des reliques de Charlemagne, donc des reliques à la véracité assez douteuse, il faut bien le dire, mais ça fait partie des reconstructions justement matérielles et idéologiques typiques du Moyen-Âge. Mais quoi qu'il en soit, il y a réellement le sentiment d'une filiation entre Charlemagne et Charles Quint. Et de manière générale, le projet de Charles Quint de fédérer à nouveau l'Europe autour de sa personne, ça dérive complètement de la vision unitaire qui était celle de Charlemagne, qui devait être la source de la législation, un souverain guerrier qui devait défendre effectivement l'Empire, mais aussi l'étendre. Et c'est ce qu'on voit à la fois du Moyen-Âge avec toutes les légendes qui circulent autour de la vie supposée de Saint Charlemagne, hein, donc canonisé d'autorité par l'empereur Frédéric II au XIIe siècle, et qui prétend que Charlemagne non seulement à fédérer les différentes nations chrétiennes, comme on le sait, mais serait aussi allé à Constantinople et à Jérusalem combattre les musulmans. Donc, dans cette légende, on voit que effectivement, il y a une attente réelle de la population pour que Charles Quint, héritier de tant de traditions dynastiques et de territoires, reprenne la mission qui est celle attribuée à Charlemagne, qui est celle donc d'un roi législateur et d'un roi guerrier. Et dans l'ensemble, c'est ce qui transparaît notamment dans sa volonté continue au cours de son règne de faire la guerre sur les rivages de la Méditerranée pour chasser ou du moins réduire les roitelets musulmans en simples vassaux, et également dans sa volonté qui est assez peu comprise en France à l'époque-là de se faire couronner par le pape. C'est quelque chose qui effectivement remonte à Charlemagne directement et qui était tombé plus ou moins en désuétude à la fin du Moyen-Âge. Et Charles Quint justement a la volonté de réactiver ce vieux rite justement pour signifier qu'il est vraiment empereur de plein effectif et maître de Rome au moins symboliquement. Il ne va pas dépouiller le pape de sa capitale, mais il veut être effectivement le souverain reconnu par tous, y compris par le pape, qui pour sa part feint de ne voir dans les couronnements impériaux allemand avec la chapelle qu'un couronnement en fait de seconde catégorie.
Alors, dans cette histoire de Charles Quint, dans l'histoire de ce rêve brisé, vous l'avez dit en introduction, on ne peut pas ne pas penser à la lecture de votre ouvrage que finalement Charles Quint préfigure en quelque sorte, il ne préfigure pas l'Europe d'aujourd'hui, mais il est un morceau de l'histoire de celle-ci. Et finalement, Charles Quint apparaît un petit peu comme finalement l'histoire de Charles Quint se confond avec celle de l'histoire de l'Europe. Et lorsque vous venez de rappeler la question dynastique, il agrège en quelque sorte des territoires essentiels. Il y a tout d'abord le Saint-Empire, héritier de cette tradition impériale depuis l'Antiquité romaine. Il y a ces territoires flamands si riches au sortir du Moyen-Âge. Il y a bien sûr ces territoires italiens, notamment le duché de Milan, ses rêves de Rome aussi. Vous nous apprenez qu'il a, à un moment, son chancelier a songé à aller s'installer, le faire installer à Rome, et lui-même a été plus prudent. Et puis, il y a cette couronne, ces couronnes ibériques hein, de Castille et d'Aragon, qui, finalement, lui apporte quelque part une sorte de maîtrise de la Méditerranée occidentale. On le voit, Charles Quint, finalement, il domine l'Europe, mais il la domine naturellement, légitimement, et finalement, dans vous le rappelez, ces allers-retours permanents, c'est un empereur qui se déplace, qui fait la guerre, qui va dans l'Empire, il retraverse l'Empire, il va en Italie, il retourne en Espagne, d'Espagne, il repart en Italie. Cet empereur voyageur, quelque part, qui combat des souverains qui n'aspirent qu'à lui tailler des croupières, à lui arracher des morceaux de ses différents héritages. Finalement, est-ce qu'il incarne pas, Charles Quint, une sorte d'échelon supérieur des nations? Est-ce que finalement, cette Europe de la dynastie de Charles Quint, c'est pas déjà ce moment où tout le monde négocie avec tout le monde? On voit des discussions permanentes avec le roi d'Angleterre, Henri VIII, avec François Ier, c'est la guerre, mais elle n'exclut pas non plus la diplomatie. Il y a les princes allemands, il y a le pape lui-même. On voit autour de Charles Quint, finalement, autour de cette figure, on va pas dire que c'est un père de l'Europe parce que ce serait anachronique, mais quelque part, il y a une sorte de discussion permanente autour de Charles Quint, de sa politique, de ses alliés, de ceux qui cherchent à lui arracher des morceaux. Et finalement, il y a une sorte quand même d'Europe qui naît à travers cet usage de la diplomatie, de la négociation permanente avec, pour ou contre Charles Quint. Finalement, est-ce qu'il illustre pas quelque part, est-ce qu'il n'est pas le temps d'une sorte de matrice, finalement, avant les nations du 19e siècle? Est-ce qu'il n'est pas la création d'un échelon qui n'est pas celle des États, des principautés, que ce soit celle de Catalogne, des États souverains allemands? Est-ce qu'il n'est pas finalement une sorte, vous voyez, dans cette Europe qui n'existe plus, des dynasties, un échelon intermédiaire qui, finalement, préfigurerait, quelque part, une sorte de fonctionnement aujourd'hui de l'Europe?
Alors, Effectivement, c'est quelque chose qui est assez troublant, dont je me suis rendu compte alors même que je faisais mes recherches pour le livre. On ne se rend pas compte combien, à l'époque-là, tout le monde parle avec tout le monde. Même en temps de guerre, ou lorsque les relations officielles sont censées être rompues, les différents princes et rois passent leur temps à s'écrire ou à envoyer des ambassadeurs pour discuter. C'est vraiment absolument permanent. Et Charles Quint, de fait, pas tant par son titre que par l'ampleur des territoires qu'il gouverne, est amené justement à discuter avec l'ensemble de ses voisins. Et donc, quand on est à la fois empereur en Allemagne, en Italie également, roi d'Espagne, duc de Bourgogne pour les Pays-Bas, bien en fait, on est amené à discuter avec tout le monde. Et c'est quasiment le seul qui a cette obligation. Il doit aussi bien discuter avec les puissances scandinaves et anglaises au nord, que polonaises et turques à l'est, avec l'ensemble des principautés italiennes, avec les barbaresques au sud de la Méditerranée, et le tout en finissant par le Portugal à l'ouest. Et la France, évidemment, qui est en plein milieu. Donc, c'est vraiment le seul souverain qui est à ce point obligé de discuter en permanence avec tout le monde, dans toutes les directions et sur tous les territoires. Et à ce titre, effectivement, c'est probablement ce qui l'encourage justement à vouloir créer un modèle de fédération européenne, même si c'est encore un peu anachronique, dont il serait le président, mais pas forcément le maître. C'est quelque chose qui transparaît notamment dans les clauses du traité de Madrid, donc le traité qui entérine la grande défaite de François Ier, où l'une des clauses prévoit explicitement que les deux souverains doivent favoriser la tenue d'une grande assemblée avec des représentants de l'ensemble des nations européennes pour justement convenir d'une politique commune pour la crise religieuse interne et le danger musulman à l'extérieur. Donc, on voit quelque part que, effectivement, Charles Quint a conscience qu'il y a un besoin de retrouver une structure supranationale, que dans l'idéal, il doit présider, étant donné son titre et ses ambitions, mais qui est encore assez incongrue à l'époque. Parce que, justement, on a la première émergence nationale et parce que l'empire de Charles Quint lui-même est multinational, en fait. Il n'y a pas d'unité juridique ou culturelle au sein de son empire. Et donc, même à l'intérieur de ses propres possessions, il doit en permanence composer avec des diètes en Allemagne, des cortès en Espagne, et ainsi de suite. Et donc, il y a vraiment un facteur diplomatique qui est au cœur de la pensée de Charles Quint à cette époque-là.
Vous avez raison de le souligner. Je pense que les lecteurs seront ravis. Ils trouveront dans votre ouvrage aussi une explication du fonctionnement des traditions politiques propres de l'Europe du XVIe siècle. Et effectivement, Charles Quint l'illustre, hein, ce sont celles d'une consultation, d'une négociation permanente avec l'ensemble de ses sujets, de ses vassaux, hein, des représentants des grands des princes, de la noblesse, mais pas seulement aussi. Hein, effectivement, on le voit très bien. D'ailleurs, finalement, cette question de cet usage politique, de la négociation permanente, de la discussion, elle concourt à l'autorité de l'empereur, à une sorte de sa suprématie. Ça n'est pas un empereur comme on pourrait l'imaginer, un empereur qui décide et impose, c'est un empereur qui négocie surtout. Et il est en cela aussi l'héritier finalement des traditions médiévales, finalement des traditions politiques. Et on en vient à la lecture de votre ouvrage à se poser la question, notamment dans son duel avec François Ier, qui est un duel qui s'inscrit sur plusieurs années, un duel long, qui commence jeune par la couronne impériale, puis ensuite pour l'Italie, pour le Milanais, pour tous ces territoires. Finalement, Charles Quint est encore un chevalier du Moyen-Âge et en même temps, il annonce un fonctionnement politique pour l'Europe, pour l'histoire de l'Europe, qui est différent. Dès lors, c'est une question. Denis Crouzet avait fait le parallèle pour Christophe Colomb en se demandant si c'était un homme du Moyen-Âge ou le premier homme de l'époque moderne. J'ai envie de vous poser la même question pour Charles Quint. Est-ce que Charles Quint n'est pas le dernier chevalier du Moyen-Âge qui emporte à la fois les idéaux, ou n'est-ce pas celui qui finalement reconfigure, remodèle, transforme ses idéaux politiques dans une vision de l'Europe, de ce qu'il doit être lui-même, de ce que doit être le pouvoir impérial, mais aussi du fonctionnement finalement des rapports entre les princes?
Oui, effectivement, donc ce statut en quelque sorte de dernier chevalier du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui revient fréquemment, effectivement, pour qualifier Charles Quint. Et à mon sens, c'est tout à fait vrai parce que Charles Quint, très clairement, est une émanation de la culture de la fin du Moyen-Âge, que ce soit au plan politique, au plan littéraire, et de manière générale, dans la conception de ses valeurs morales et religieuses. Dernier chevet du Moyen-Âge, qui a néanmoins l'intuition que la structure du pouvoir devrait évoluer vers autre chose. Donc ça ne suppose pas une révolution complète donc des valeurs ni du fonctionnement de l'Europe, mais ça suppose pour lui, on va dire, quelque sorte un retour à un état un peu idéalisé en fait. Parce que Charles Quint était quelqu'un qui a beaucoup lu tout ce qui était littérature chevaleresque, romans de chevalerie, mémoires des princes, etc. Et il est beaucoup plus à cheval sur les notions traditionnelles comme l'honneur que ne l'est François Ier, qui lui, à l'inverse, joue au chevalier en façade, mais n'hésite pas à se parjurer ou à dire des mensonges tout à fait éhontés, alors que Charles Quint, lui, ça ne lui viendrait même pas à l'esprit. Donc, sans idéaliser Charles Quint, encore une fois, on peut vraiment présenter l'empereur comme vraiment le dernier chef d'État médiéval, en fait, à cette époque-là. Mais qui a, je me répète, l'intuition que son pouvoir devrait évoluer vers autre chose. Donc cette autre chose, justement, c'est son rêve d'empire, mais ce rêve va échouer, comme le titre du livre l'annonce. Et cet échec, en fait, met 20 ans, à dire vrai, à se révéler aux esprits les plus clairvoyants, quoi.
Alors, parmi les ennemis de Charles Quint, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr, il y a d'abord dans l'Empire, il y a ces princes allemands qui sont turbulents, qui vont profiter de la réforme, hein, c'est l'apparition, l'irruption du protestantisme à partir de 1517. Il y a dans la Méditerranée la puissance ottomane avec le sultan qui, effectivement, après la chute de Constantinople en 1453, se développe, notamment dans la Méditerranée. Et puis, il y a ce grand ennemi. Ce grand ennemi, c'est le roi de France, c'est François Ier, mais comme nous le disions à l'instant, il n'en ressort pas grandi, finalement, à chaque fois que l'on compare le roi de France à l'empereur. L'un est veut les menteurs, l'autre n'a qu'une parole. L'un trahit et trahit à nouveau, l'autre reste fidèle. Finalement, dans ce duel entre François Ier et Charles Quint, on a aussi l'impression qu'il y a deux traditions politiques qui s'affrontent. Il y en a une qui, vous le dites, finit comme un échec, c'est celle de Charles Quint, mais celle de François Ier l'est tout autant. Il ne conservera aucune, finalement, de ses victoires. Il fait les guerres en Italie de manière successive pour immanquablement et souvent lamentablement finir de la même manière. Et votre livre restitue bien cette continuité de ces affrontements. Lorsqu'on lit la défaite de Pavie, lorsque le roi de France est fait prisonnier, c'est un fait extrêmement rare quand même dans l'histoire, hein, depuis le Moyen-Âge, que des souverains, on s'attend à avoir vécu le pire en 1525-1526, et non, cela dure très longtemps. Alors, sur cet affrontement entre François Ier et Charles Quint, quels sont, à votre analyse, finalement, quels sont les points les plus saillants de cette opposition? Il y a une opposition d'hommes, il y a une opposition politique, il y a une opposition de style, dirions-nous aussi aujourd'hui, une opposition de valeurs. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faudrait retenir, finalement, de cet affrontement quasi homérique entre un roi de France, finalement, qui finit toujours par des défaites?
Oui, effectivement, le duel entre Charles Quint et François Ier est emblématique de cette époque et il concourt à l'échec du rêve d'empire de Charles Quint sans que la France elle-même n'en sorte grandie. Parce que, effectivement, comme vous le dites, François Ier a, pour ainsi dire, tout raté du début à la fin. une fois passé Marigny en 1515, toutes les guerres qu'il a entreprises se sont mal terminées. Donc, au plan diplomatique et stratégique, le constat est sans appel. Au-delà de cette rivalité stratégique, il y avait aussi une réelle mésentente entre les deux personnages, ne serait-ce qu'au point de vue, on va dire, du premier conflit avec la couronne impériale en 1519. François Ier voyait la couronne impériale comme la confirmation de sa propre supériorité sur les autres nations européennes, en sachant qu'à cette époque, la France est très clairement la première puissance d'Europe. de manière vraiment éclatante. Et après 1520, bien, les choses se renversent extrêmement vite et ça coïncide avec l'élection de Charles Quint comme empereur, mais ça en est en réalité relativement distinct. Tout simplement parce que en recueillant l'héritage de ses pères, Charles Quint est devenu de fait beaucoup plus puissant que lui. Et la quête de François Ier de conjurer son échec en 1519, en fait, tourne à une obsession qui se matérialise par la question italienne, mais qui serait probablement, de mon point de vue, demeurée parfaitement active, même si l'Italie avait été réglée tout de suite, en fait. On a vraiment la rancœur d'un roi de France qui est extrêmement ulcéré de n'être que roi, quoi. Et Charles Quint, de son côté, lui, n'a pas du tout la même aigreur au départ. Pour lui, le roi de France est un partenaire éventuel, en fait. Et une fois le premier affrontement stratégique passé avec Pavie en 1525, lui pense qu'il y a moyen de rétablir une amitié. Pas forcément une amitié très intime entre les deux souverains, mais de rétablir une amitié, une communauté d'intérêts. Et c'est justement quelque chose, une chose à laquelle il va croire pendant assez longtemps, jusque à la dernière guerre qu'il livre, donc au début des années 1540, où là vraiment il en a assez et il conclut que dans une de ses lettres, il conclut que il vaudrait encore mieux rester en état de guerre permanent avec la France que d'essayer de refaire un nouveau traité, parce que vraiment avec les Français c'est possible. Donc vraiment il y a une rancœur personnelle entre les deux personnages qui va crescendo avec le temps. Et au-delà de ça, il y a, comme vous le disiez, une différence de style. C'est que, quels que soient leurs intérêts divergents, en plus, ils n'ont pas la même vision du monde. D'une part, de par leur conception du pouvoir, qui est plus centralisée en France et qui, depuis le XIIIe siècle, vise à faire reconnaître la France comme la première nation catholique d'Europe, et avec l'empereur qui, lui, au contraire, voudrait présider l'ensemble des nations d'Europe et les faire jouer en harmonie autour de lui, en véritable chef d'orchestre. Et que ce soit dans leurs vêtements ou dans leur façon d'agencer leur cours, il y a vraiment deux univers complètement différents. Charles Quint est toujours habillé de couleurs sombres, voire même en noir, alors que François Ier, lui, est un roi extrêmement fastueux, qui ne fait que donner des fêtes, se couvrir d'or et d'argent à toute représentation publique. Et justement, la différence de caractère est l'un des traits qui cause aussi l'échec des quelques essais de négociation qui ont lieu en face à face entre eux deux. Lorsque, en 1538, François Ier et Charles Quint se retrouvent à Nice puis à Aigues-Mortes pour négocier un nouveau traité de paix, bien justement, on se rend compte qu'il y a un problème, en fait. Il y a un problème entre François Ier qui est resplendissant, qui donne des banquets somptueux, et Charles Quint qui, lui-même, en fait, est extrêmement austère. Donc, de base, en fait, il n'y a pas de possibilité d'entente personnelle entre les deux hommes. Et cela ne fait que confirmer la dissension stratégique entre les deux royaumes.
Cette opposition continuelle entre Charles Quint et François Ier dure tout au long de leur existence, jusqu'à leur mort. Finalement, ils sont marqués par cet affrontement permanent, régulier, sur toutes les formes. Néanmoins, on peut quand même relever aussi une sorte de paradoxe, puisque finalement, Charles Quint, peut-être que son rêve d'empire est brisé, mais la structure impériale existe. François Ier n'obtiendra aucun de ses objectifs que lui, il s'était assigné, c'est-à-dire conquérir une partie de l'Italie. Néanmoins, dans le souvenir, au moins en France, au moins dans la tradition, dans les pays francophones, François Ier demeure finalement le roi de la Renaissance, ce prince de la Renaissance, ce prince qui a fait venir des artistes, ce prince qui a construit des châteaux. Il a quand même, quelque part, à défaut d'avoir eu des succès militaires, il a eu des succès artistiques. Et ces deux souverains sont aussi des souverains dans une Europe marquée par le développement de l'imprimé, des souverains qui se disputent autour d'une forme de communication, de mise en valeur de soi, de son image, à travers, vous venez de le citer, les banquets, les fêtes, etc. On pense qu'il aurait été quand même beaucoup plus agréable de vivre à la cour de François Ier que celle de Charles Quint. N'est-ce pas ici, quelque part, dans cette sorte de bataille de la communication, ne peut-on pas dire que, pour le coup, François Ier a peut-être gagné au moins une fois dans sa vie
cette bataille-là, c'est-à-dire celle des images, de l'image de soi et du rayonnement des arts. Parce que finalement, Charles Quint, on lui associe assez peu, finalement, un héritage culturel très fort, même si vous le montrez, ça a été aussi un prince humaniste. Mais est-ce que sa modestie n'a pas quelque part ruiné, finalement, une partie de sa postérité ?
Alors, effectivement, c'est un point important, parce que François Ier était un extrêmement bon communicant. Et il a eu une politique artistique qui, justement, visait à soutenir le rang de la France, au moins dans les apparences, à défaut de le soutenir par les armes. Et pour le coup, c'est une réussite complète.
Il a réussi à nous faire croire qu'il avait gagné quelque chose.
Oui, oui, oui. Et c'est précisément un autre auteur, Didier Le Fur, le met en avant dans un de ses livres, c'est que François Ier, avant qu'il n'y ait des relectures au XIXe siècle par des historiens un peu adeptes du roman national, François Ier, après sa mort, est vu avant tout comme le prince des arts, en fait. Pas comme un roi guerrier, ni comme un grand stratège, mais avant tout comme le prince des arts. Et c'est ce pourquoi il est admiré après sa mort. Donc le reste de son œuvre, de ses combats, passe pour ainsi dire à la trappe. Hein. Marignan notamment ne fait pas l'objet de grandes spéculations avant le XIXe siècle. Par contre, effectivement, il y a une reconnaissance universelle de son grand œuvre qui est Fontainebleau. Quoi. Donc son château de prédilection est celui qui est devenu, pour ainsi dire, le laboratoire de la Renaissance en France, donc des années 1530 jusqu'à la fin de la dynastie des Valois. Quoi. Et ce château est tel que lorsque Charles Quint vient en visite en France, donc après la dernière guerre en 1444-1445, et qu'il voit Fontainebleau et puis quelques autres châteaux comme Chambord qui est inachevé, il leur amène justement des modèles qui sont diffusés par la gravure à Bruxelles, dans les Pays-Bas et en Allemagne. Et on a vraiment un excellent investissement dans justement la politique de communication au plan de l'imprimé, mais également surtout la politique des arts, qui est vraiment le principal héritage du roi de France à cette époque.
Alors, parmi les échecs de Charles Quint, il y en a un qui est patent. C'est celui qui concerne la politique religieuse. Son règne est quand même marqué par l'irruption du protestantisme en Europe, et c'est un fracas. Sans l'ensemble de son souhait, son aspiration à l'unité, à la restauration de l'unité entre les chrétiens, finalement, est un échec patent. Et dans cet échec, finalement, est-ce que ça n'est pas, en dépit d'un souverain qui a saisi les mutations politiques de l'Europe, les mutations politiques qui ont affecté les différents États, les différentes formes de souveraineté qui existent, qu'est-ce que Charles Quint n'a pas compris, finalement, de la question religieuse ? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris des aspirations, finalement, à la fois d'une partie de l'Église elle-même, hein, d'une partie des catholiques eux-mêmes, avant qu'ils se séparent des protestants ? Qu'est-ce que finalement, Charles Quint n'a pas compris, finalement, pour en arriver à cet échec, cette incompréhension qui se répète, finalement, son refus d'accepter, lui qui acceptait que ses vassaux, que les différents princes d'Europe pouvaient avoir une certaine forme d'autonomie, on a la sensation un petit peu qu'il n'a pas compris, finalement, la profondeur de la réforme religieuse qui est en cours. Est-ce que c'est d'une forme d'incompréhension ? Est-ce que c'est une forme de déni, ou est-ce qu'il a vraiment cru qu'il allait pouvoir réunir les catholiques et les protestants ?
Alors là, je peux vous répondre effectivement, parce que Charles Quint a, je pense, au contraire, compris quel était l'enjeu. Parce que la réforme, vous l'avez dit, était un fracas. Hein. C'est un mouvement qui était extrêmement violent, en fait, à l'époque. Beaucoup plus qu'on ne se le représente aujourd'hui, où la liberté religieuse, ben, c'est quelque chose de très convenu. Et à l'époque, en fait, ça dégénère réellement par endroits en guerre civile. Et Charles Quint, il voit ça d'abord, en fait, en chef d'État, quoi, et il essaye de trouver un terrain d'entente pour les deux camps. Et cette façon de faire, qui nous semble très, très raisonnable, eh bien, en fait, n'est pas du tout la méthode qui marche avec, justement, les esprits de l'époque. Parce que toutes les tentatives de conciliation échouent, parce qu'il y a sans cesse des achoppements sur les principaux, les principales lignes de crête, si je puis dire. Il y a des points qui cristallisent les contestations des réformés, et ces points, bien souvent, sont en fait impossibles à remanier du point de vue des catholiques purs et durs. Et ce qui fait que, même si parfois on a pu avoir le sentiment qu'il y avait un rapprochement possible, eh bien, ça a systématiquement échoué parce que, justement, il n'y avait pas de terrain d'entente en réalité possible entre les deux camps. Et pour que Charles Quint retrouve la paix, il n'aurait pas fallu qu'il essaye de négocier, il aurait fallu qu'il essaye d'imposer son point de vue et d'y mettre des moyens militaires conséquents, très conséquents. Et en l'occurrence, la réforme poursuit son cours, justement parce que l'empereur a justement dans son tempérament et sa culture une pratique de négociation et de tempérance. Et c'est cette pratique qui est une véritable qualité en temps normal, s'avère être au contraire une faille sur celui de la réforme, parce que justement il n'y a aucun résultat à toutes ces tentatives de négociation. Donc il n'y a pas vraiment d'incompréhension pour moi de la part de Charles Quint, c'est surtout en fait qu'il a été trop gentil, en résumé, en simplifiant tout simplement. Il fallait qu'il prenne position de manière beaucoup plus nette qu'il ne l'a fait, et qu'il essaie d'amadouer les deux camps, mais d'imposer des décisions, que ce soit pour se rallier à la réforme et l'accélérer, soit pour imposer la réforme de manière beaucoup plus assurée auprès des catholiques. Et quand je dis imposer une réforme aux catholiques, je ne parle pas de faire passer les catholiques dans le camp de la réforme, mais vraiment de faire une réforme profondément catholique qui aurait justement épuré tous les usages qui pouvaient faire débat parmi les humanistes et les esprits réformateurs de l'époque.
Alors, on voit bien que sur le plan religieux, cette question... Le tarot aussi, personnellement, c'est finalement, on vit dans une Europe où tout le monde était chrétien, hein, tout le monde croyait en Dieu, tout le monde, plus ou moins, sous des formes différentes, mais il y avait un rapport à la transcendance qui était évident, qui allait de soi pour dans les mentalités de l'époque. Et Charles Quint s'appuie sur des religieux, sur des princes d'Église, et cela nous introduit au-delà finalement de ses opposants que sont François Ier, le sultan, les princes allemands, dans ceux qui l'entourent finalement. Hein, il est assisté du chancelier Gattinara, que l'on voit quand même beaucoup plus exigeant que lui, et puis apparaît aussi finalement dans cette figure de l'empereur, un rôle qui est donné notamment à sa sœur, au moment de qui est un véritable atout stratégique finalement de défense de la politique impériale. Hein, il lui impose un mariage avec François Ier. Il y a également sa femme qui assume la régence. Est-ce que finalement, dans les traditions politiques qu'a inauguré Charles Quint dans l'Europe du XVIe siècle, il n'y a pas aussi cette non pas une revendication de la place des femmes, c'est pas du tout ça, mais il leur a confié finalement des missions, et lorsqu'il avait des missions extrêmement importantes, que ce soit pour la dynastie, que ce soit pour ses différents territoires en Flandre, etc., il inaugure cette tradition qui sera reprise aussi par ses successeurs, finalement, de s'appuyer sur les sœurs, les belles-sœurs, les mères, etc. Et il y a ainsi une sorte d'internationale féminine de la famille Habsbourg qui commence à finalement, est-ce que c'est pas lui qui l'a créé en s'appuyant sur sa sœur, en s'appuyant sur sa femme, en qui il a une grande confiance, finalement, n'hésitant pas, lui, l'empereur, pris au milieu de ses guerres, à partir, à confier le pouvoir, les régences. Et on voit tout à fait que sa femme s'en sort très bien, si je puis dire. Elle est même reconnue, quelque part, par ses sujets espagnols, par ses sujets castillans. Est-ce qu'il y a ici, vous voyez, une mutation, ou tout simplement, c'était... un usage politique courant. Dans quelle mesure Charles Quint ici a-t-il innové en confiant des parcelles de pouvoir, en déléguant temporairement une partie de ses pouvoirs sur le plan diplomatique ou politique à des femmes?
Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant compte tenu de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, que donc un empereur de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance ait pu déléguer son pouvoir à des femmes qui, a priori, dans la représentation que nous avons de cette époque, ne sont pas des dirigeantes nées. Et en fait, Il faut en fait avoir à l'esprit que le monde dans lequel Charles Quint vit, ce n'est pas tant un monde où on aurait un pouvoir d'un seul bloc qui ne dépendrait que de lui, mais un monde où le pouvoir fonctionne en réseau. En fait, ça, cela découle en partie de sa vision de l'Europe et de ses donc de ses négociations répétées aussi bien dans ses États qu'avec les nations étrangères. C'est que le pouvoir ne se conçoit pas sans partenaires, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc, il a besoin justement d'avoir des relais de son autorité, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre quand il doit quitter l'Espagne pour faire la guerre. Et justement, le fait qu'il ait une abondante fratrie avec de nombreuses sœurs qui elles-mêmes ont des enfants et des filles, lui permet justement de mettre en œuvre une politique de famille, j'appelle ça un système de famille, où justement les réseaux du sang permettent de sécuriser des points de pouvoir, des points stratégiques particuliers. Donc, vous le dites, il y a sa femme, l'impératrice Isabelle, en Espagne, qui, en tant que princesse portugaise, a une excellente connaissance donc de la société locale et qui est extrêmement bien éduquée, qui est un modèle de beauté et qui ne fait donc absolument aucune vague dans son gouvernement en Espagne. Aucune vague dans le sens où elle ne mécontente personne. Sans pour autant être une femme effacée, loin de là. Et donc, justement, la grande tradition que vous avez aussi évoquée, donc de placer des régentes aux Pays-Bas, effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas inventé, parce que c'est son grand-père Maximilien qui l'avait mis en place avec sa tante Marguerite, mais cela répond à un réel besoin, en fait, qui est que les Pays-Bas, étant le seul élément subsistant de l'ancien duché de Bourgogne, veulent avoir comme gouvernant direct un descendant de la lignée de Bourgogne. Sans quoi, ils deviennent facilement remuants, on va dire, pour être gentil. Et donc, la nécessité d'avoir un parent de Charles Quint en permanence sur place est évidente, dès avant la naissance de Charles Quint. Et celui-ci, en fait, perpétue la régence de sa tante et la reconduit avec donc sa sœur Marie, reine douairière de Hongrie, qui y est nommée à la mort de sa tante en 1530. Et ces deux premières princesses donnent justement le la pour donc les deux siècles qui suivent, où on aura systématiquement des régentes ou parfois des régents pour gérer ces Pays-Bas au nom des Habsbourg. Et là, c'est une tradition que cette position échoit à des princesses, mais en l'occurrence, il s'agit plutôt, on va dire, d'une affaire de circonstances. À l'époque de Marguerite d'Autriche, il n'y avait pas d'autres enfants disponibles, et à l'époque de Charles Quint, sur toute la fratrie, ils ne sont que deux garçons. Et Charles Quint juge que son frère Ferdinand est plus approprié ailleurs, notamment en Empire, qui a réellement besoin d'une poigne pour faire la guerre et imposer l'autorité autant que possible. Alors que dans les Pays-Bas, même s'il faut un membre de sa famille pour régner, il n'y a pas besoin d'une puissance, on va dire, capable de porter les armes avec la même urgence, on va dire.
Alors,
voilà. Donc, pas forcément un besoin de mettre en avant les femmes, mais plutôt le souci de mettre la main sur des points stratégiques. Et les femmes, justement, sont là pour se les approprier, soit comme régente, soit par le mariage.
Parce qu'elles représentent quelque part la famille. Hein, elles représentent aussi l'empereur directement, mieux que ne le ferait un conseiller ou un subordonné. Elles portent le sang de l'empereur et elles peuvent gouverner aussi fort d'une légitimité que le frère, le mari ou l'oncle a confié. L'Europe de Charles Quint, c'est une Europe qui connaît des bouleversements considérables. On en a parlé, c'est la question religieuse. C'est l'Europe de Charles Quint, c'est une Europe qui est marquée aussi par la mutation des traditions politiques, des usages politiques. Et puis l'Europe de Charles Quint, on ne peut pas ne pas le mentionner, c'est aussi celle qui connaît le véritable basculement au sens brodélien du terme, de la Méditerranée vers l'Atlantique. Parce que si l'Amérique a été découverte, ou au moins la découverte a été portée en partie par Christophe Colomb en 1492, c'est véritablement dans les années où Charles Quint est empereur qu'on sent véritablement les liens s'établir par-delà finalement l'océan Atlantique. Mais Charles Quint est encore l'homme de la Méditerranée.
Et dans cette Méditerranée, dans cette histoire de la Méditerranée, l'empereur est tout aussi attaché au nord de la Méditerranée qu'au sud de la Méditerranée. À plusieurs reprises, d'ailleurs, il traverse, il tente de traverser ou il mène des opérations qui ne sont pas toutes des succès, mais quelque part aussi qui illustrent ce rêve de Charles Quint. Alors, la question est toute trouvée. Rappelez-nous quelque part, en quelques mots, finalement, ces ambitions de Charles Quint, finalement, d'aller aussi, de ne pas se cantonner à l'Europe, à la rive nord de la Méditerranée, mais aussi de toucher les rives sud de la Méditerranée.
Oui, alors effectivement, comme vous le dites, Charles Quint est un souverain qui est beaucoup plus méditerranéen qu'atlantique dans sa vision des océans et de la géopolitique mondiale. Donc cela tient à deux choses. D'une part, le fait que outre-Atlantique, donc c'est extrêmement lointain au plan vraiment des distances. Et son contrôle est en fait beaucoup plus lâche qu'il n'y paraît. La colonisation s'y fait essentiellement par le biais de capitaines qui ont de véritables contrats avec la couronne d'Espagne et qui donc reçoivent autorité de conquérir les terres au nom de Charles Quint et de lui reverser une part du butin. Et la mise en place d'une véritable société coloniale est en fait extrêmement lente. Et dans cet espace, ce sont avant tout les conquérants, les conquistadors, dont on a beaucoup parlé par le passé, qui sont les réels maîtres du terrain. Et si Charles Quint s'appuie sur eux pour avoir une manne financière qui vient un peu sursoir à l'asphyxie de ses ressources pendant les guerres avec la France et les Turcs, son attention est principalement dirigée vers le sud, vers la rive musulmane de la Méditerranée. Et cette attention, elle est due d'une part à l'héritage de ses grands-parents espagnols. Isabelle et Ferdinand d'Aragon avaient passé toute la fin de leur règne, une fois les morts expulsés de Grenade, à justement parsemer toute la côte du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et même de la Libye de points de contrôle pour justement faire des royaumes musulmans locaux des vassaux de l'Espagne et, dans la mesure du possible, contrôler les flux commerciaux qui s'y trouvaient et empêcher également, parce que c'est un danger qui était bien connu depuis plusieurs siècles, empêcher les pirates des barbaresques de faire des raids sur les côtes de l'Espagne, de la France, de l'Italie et d'y prélever des esclaves. Et Charles Quint poursuit au départ en fait la politique de ses prédécesseurs qui est justement de sécuriser autant que possible la rive du Maghreb. Et cette politique va être développé en fait à partir du moment où on se rend compte que toute cette zone est directement susceptible de tomber dans l'escarcelle de l'Empire ottoman, qui est donc la principale puissance de l'Orient méditerranéen et qui est un réel danger sur le front terrestre à l'est en Hongrie. Et voir le sultan de Constantinople réellement remettre la main sur le Maghreb est un danger extrêmement dangereux parce que cela signifierait en fait que l'Europe serait prise en tenaille aussi bien par voie terrestre à l'est que par voie maritime au sud. Et cela explique en grande partie pourquoi est-ce que Charles Quint s'est autant soucié de renforcer son réseau de forteresses, de le défendre et de l'agrandir quand il le pouvait sur les côtes maghrébines. Mais effectivement, vous l'avez dit, il va y avoir des succès, il va aussi y avoir de très gros échecs. Charles Quint parvient à prendre Tunis, qui avait été justement occupé par Barberousse, donc le pirate partisan du sultan ottoman, en 1435. Donc ça, c'est extrêmement important pour sa réputation, parce que c'est la première fois que les chrétiens ont un succès aussi éclatant sur une puissance musulmane depuis la conquête de Grenade, grosso modo. Et cela lui permet justement d'asseoir son image d'empereur guerrier qui étend la chrétienté et qui la défend contre ses ennemis de l'extérieur. En revanche, donc après 1435, les choses se gâtent parce que dès 1538, il y a une première grosse défaite qui fragilise ses forces en 1538 à la Prévesa, dans les environs de donc en Grèce, dans les environs de la bataille d'Axium, pour ceux qui connaissent un peu leur classique augustéen et cléopatrien. Par contre, le grand échec qui signe vraiment la fin des entreprises de Charles Quint en Méditerranée, c'est l'expédition d'Alger en 1441, qui est un vrai désastre. Il perd la quasi-totalité de sa flotte d'environ 200 bateaux de mémoire et une partie de son artillerie. Donc vraiment, il y a une fin de règne qui est très compliquée de ce point de vue-là. La Méditerranée, tant au début de règne, ça semble poursuivre les succès de ses prédécesseurs, autant à la fin du règne, on est vraiment revenu sur une position extrêmement défensive.
Alors, Charles Quint, c'est ce prince de la Renaissance aussi. C'est un prince marqué aussi par l'humanisme. Et on a un petit peu la sensation que dans son rapport au Nouveau Monde, c'est un prince humaniste. Il est traversé par toutes les questions que vous venez de les mentionner, de cette puissance des conquistadors qui sont puissants au-delà des mers, sont installés en Amérique, n'obéissent pas, sont un peu des seigneurs locaux qui sont bien loin d'un pouvoir en Europe qui pourrait les contraindre. Et Charles Quint est obligé de mener une politique habile pour à la fois faire reconnaître son autorité et en même temps permettre à ses conquistadors de lui apporter de nouveaux territoires. Néanmoins, on a quand même la sensation que dans ce rapport au Nouveau Monde, c'est aussi le moment où on voit l'humaniste Charles Quint. Alors bien sûr, sa politique connaît de grands échecs, mais il y a aussi ce rapport aux Indiens nouveau qui sera appelé à durer, à poser cette question du rapport des chrétiens à d'autres populations, notamment en Amérique, qui donnera lieu à la célèbre controverse dite de Valladolid, mais ce n'est pas seulement celle-ci, plus tard. Et Charles Quint est un peu encore le porteur des idéaux de cet humanisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors oui, effectivement, Charles Quint, donc, je vous l'ai dit, donc, a une culture littéraire et humaniste bien réelle. Il a lu donc, non seulement les romans de chevalerie attachés à l'honneur, à la miséricorde, à ses valeurs traditionnelles, mais également les mémoires de princes qui, eux, penchent plutôt pour une justice du gouvernement. À la fin du Moyen-Âge, la justice, c'est vraiment l'expression parfaite du pouvoir souverain. C'est par la justice que un roi se montre sévère ou au contraire miséricordieux avec ses sujets. Et si avec l'Amérique, il n'y a pas la possibilité d'exprimer cet aspect du pouvoir qu'est la justice, il y a néanmoins un réel souci des populations locales. Parce que on le sait par les rapports des conquistadors, par les chroniques et les récits de l'époque, que la conquête du Mexique puis du Pérou sont des campagnes militaires vraiment horribles pour les populations locales. Il y a des massacres, il y a des épidémies qui sont tout à fait communes en Europe, mais qui sont inconnues en Amérique, qui donc font des ravages vraiment démentiels parce que ils n'ont pas l'immunité bactériologique que les Européens peuvent avoir à l'époque. Et donc l'Amérique vraiment est un théâtre d'opérations pour les conquistadors qui devient une sorte d'enfer pour les Indiens. Et Charles Quint donc en est parfaitement informé et il ne peut pas interrompre les choses parce que c'était un mouvement de fond dont il hérite de ses prédécesseurs. On l'a vu avant lui, à l'époque d'Isabelle de Castille et de Fernand d'Aragon. Ils ont commencé par s'intéresser aux îles à l'ouest de la Méditerranée. Puis, ils ont, avec Christophe Colomb, on est arrivé aux Antilles. Et ensuite, des Antilles, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un continent qui enserrait l'archipel des Antilles de tous côtés, au nord, à l'ouest et au sud. Et ce mouvement, Charles Quint ne peut pas l'interrompre. D'une part, parce que ça lui permet de faire ma base sur des ressources dont il a besoin pour la politique européenne, et d'autre part, parce que ses propres sujets, en fait, ne souhaitent pas que le mouvement s'interrompe. Ils en ont besoin eux-mêmes pour leurs propres ambitions privées. Et interdire totalement la conquête serait tout à fait contraire à ses intérêts de dirigeant. Donc, La seule option qu'il a pour tenter d'atténuer le sort de l'Amérique, c'est justement d'atténuer les conditions infligées aux Indiens, qui le plus souvent sont considérés comme des esclaves. Et il y a donc plusieurs lois, une promulguée dès 1520 et d'autres qui sont promulguées donc dans les années 1530 et en 1542 de mémoire. J'ai tellement d'âge que ça s'en mêle. Donc, où justement on essaye d'adoucir considérablement le statut des Indiens en limitant les peines corporelles qui peuvent leur être infligées, hein, en réglementant aussi les modalités selon lesquelles on peut les faire travailler dans les domaines des conquistadors. Et ces différentes lois, en fait, étant donné la distance entre l'Espagne et les colonies américaines, sont très mal appliquées. D'une part, parce que donc il faut entre 2 et 3 mois pour faire la traversée en un sens, puis pour revenir, donc en tout 6 mois. Donc, le moindre événement, la moindre crise, en fait, ne peut absolument pas être géré par la tête du pouvoir en Espagne. Absolument pas. Et d'autre part, il y a une réelle résistance des conquistadors face aux tentatives de réforme des représentants de Charles Quint. Et cela culmine avec justement l'envoi d'un vice-roi au Pérou en 1545, qui est déposé par les conquistadors après un affrontement en bonne et due forme parce qu'ils voulaient faire appliquer les lois de l'empereur avec sévérité. Et il finit tout simplement exécuté par les conquistadors qui refusent ces lois et qui donc n'entendent pas se les voir imposer. Et donc, c'est là qu'on voit véritablement la limite du pouvoir impérial outre-Atlantique, c'est qu'en fait, Charles Quint n'a réellement pas le contrôle en fait, de ce qui se passe sur place. Et ses représentants peuvent tenter d'adoucir un peu les choses, mais essayer de faire appliquer les règlements imaginés par Charles Quint et son entourage dans leur intégralité est impossible, très clairement. Et donc, Charles Quint donc, a une dimension humaniste, mais cet humanisme donc, se brise sur, on va dire, la réelle politique, on dirait aujourd'hui.
C'est finalement un échec, un autre échec de Charles Quint qui, finalement, vous permet de défendre cette thèse hein, du rêve brisé d'un empire qui, finalement, a des limites évident, des limites religieuses, des limites spirituelles, politiques en Europe, mais aussi finalement outre-Atlantique. Alors, vous tirez finalement une sorte de bilan finalement de cet empire, de ce règne de Charles Quint, qui effectivement, hein, au soir de sa vie, est quand même marqué dès les années 1540 par finalement des déconvenues, des amertumes, des déceptions qui sont nombreuses, se multiplient, s'enchaîne, s'accumule sur tous les fronts. Néanmoins, finalement, est-ce que cet échec, c'est seulement l'échec de Charles Quint ou aussi l'échec de ses opposants ? Puisque le rêve qu'il a eu, finalement, d'une Europe, finalement, pas de l'Europe, mais finalement d'une sorte de fonctionnement, quelque part des princes européens où il y aurait moins de guerres, moins d'affrontements religieux, ou qui serait porté par un humanisme, ne peut-on pas dire que finalement les aspirations qu'il a eues sont effectivement à court terme un échec. Elles sont un échec, c'est indubitable, c'est incontestable, mais finalement l'idée demeure. Est-ce que finalement le succès de Charles Quint n'est-il pas à lire au-delà de sa mort et de la fin de ce rêve impérial, finalement dans une sorte de fonctionnement, d'aspiration d'une partie des sociétés européennes à finalement réussir à fonctionner ensemble dans une unité qui n'est pas une unité impériale et politique, mais qui est une autre forme d'unité dans laquelle finalement des différences ont toute légitimité à exister. Et si le rêve de Charles Quint s'est fracassé sur un échec, effectivement, notamment en termes religieux, mais pas seulement, vous le montrez très bien, il y a aussi une sorte de pérennité des idées de Charles Quint, non pas de son humanisme, mais son aspiration. Que pensez-vous de l'idée, finalement, de la survivance, quelque part, du rêve de Charles Quint, au-delà de son règne lui-même ?
Bien, effectivement, il y a des formes de survivance. Alors, peut-être pas forcément au plan idéologique, à dire vrai. D'une part, parce que Charles Quint a prévu, dès la fin de sa vie, une partition de son empire entre donc les deux branches de sa famille, donc la sienne avec son fils Philippe qui va régner en Espagne, et celle de son frère Ferdinand qui va recouvrer les territoires orientaux, donc l'Autriche et l'Empire. Et en fait, en quelque sorte, Charles Quint, même si son projet premier est un échec, eh bien, en tentant de le réaliser, il a mis en place les mécanismes géopolitiques qui structurent en fait toute la diplomatie moderne jusqu'au début du XVIIIe siècle. L'affrontement entre la France et les Habsbourg, c'est une constante jusqu'au règne de Louis XV. Et de manière générale, le découpage des principautés ne va peu ou prou pas bougé en fait jusqu'au XVIIIe siècle. Et même s'il n'y a pas de réelle continuité idéologique, il y a un réel héritage en fait, héritage qui est porté par donc ses descendants Habsbourg et également indirectement par la France qui est dont les élites politiques sont en fait un peu traumatisées, je dirais, par leur affrontement avec Charles Quint et qui imagine pendant tout le courant du XVIIe siècle tous les moyens possibles et imaginables pour essayer justement de défaire le travail que Charles Quint avait fait au siècle précédent. Ça commence avec Richelieu qui a compris qu'il fallait amplifier encore les divisions internes à l'Empire pour affaiblir les Habsbourg d'Autriche. Puis ça culmine avec Louis XIV qui essaye de mettre un de ses petits-enfants sur le trône d'Espagne, justement parce que c'était le trône de Charles Quint et que l'occasion est trop belle de faire ma base sur ce royaume, sur son empire colonial et, si possible, sur toutes les dépendances que le royaume avait gardées en Italie. Donc on a vraiment, de loin en loin, une résurgence des enjeux de la diplomatie de Charles Quint jusqu'à la fin du règne de Louis XIV et encore sous Louis XV, même si cela a beaucoup évolué. Et donc, à défaut d'une réelle continuité, je parlerai vraiment effectivement d'un héritage. Parce que là, vraiment, on est sur un édifice qui a été construit, qui n'a pas été achevé, mais dont les bases qui ont été jetées ont une influence énorme sur tout ce qui s'ensuit.
Guillaume Franzva, je vous remercie pour cette très belle évocation de votre dernier ouvrage, Le rêve brisé de Charles Quint, 1525-1545, un empire universel, un ouvrage que vous pourrez retrouver chez Perrin et dans l'ensemble des librairies Mola. Je vous remercie, à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.